היו בני אדם מרגישים.
Quand le rav vous répond, le rav Michael Abessera répond à vos questions de halakha.
Bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. Torah Box Radio depuis Jérusalem, bienvenue à notre émission Quand le Rav vous répond. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez de bonnes vacances. Je suis le Rav Michael Abessera et nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, de répondre à vos questions de halakha. Vous aussi, vous êtes invités à nous envoyer vos questions par email radio@torah-box.com. Je répète, radio@torah-box.com. Et nous tâcherons, Be'ezrat Hashem, d'y répondre au cours de cette émission si vos questions sont sélectionnées. Ne bougez pas, restez connectés. Juste après une petite courte page de pub, nous répondrons ensemble à plusieurs questions de Halakha, notamment plusieurs questions qui nous ont été posées suite au coronavirus. Et donc, nous nous retrouvons donc dans quelques minutes. À tout de suite.
Quand le Rav vous répond, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel, avec le service Questions au Rav, les Rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24h sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Quand le Rav vous répond, le Rav Michael Abessera répond à vos questions de Halakha.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre émission « Quand le Rav vous répond ». Commençons tout de suite avec une question qui nous a été adressée par Samuel. Bonjour Rav, depuis la fin du confinement, nous organisons un petit minyan chez moi, pour les Shabbatot. Nous avons réussi, grâce à Dieu, à nous procurer un Sefer Torah. Et nous nous demandions, est-ce que nous pouvons dire la Chazara le vendredi soir, puisque cela commence à durer. Alors, excellente question. Nous savons tous que dans la prière du vendredi soir, c'est-à-dire Arvit de Shabbat, après la Amida, une fois qu'on a fait donc tout Kabbalat Shabbat, on a fait les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, on arrive à la Amida. Une fois qu'on a fait la Amida, lorsque on prie en minyan, c'est-à-dire avec 10 personnes, hommes âgés de la bar mitzvah au minimum, nous devons dire ce qui s'appelle Bracha Me'en Sheva. C'est une prière qui correspond à la répétition de l'Amida. Elle fut instaurée par les personnes qui, elle fut instaurée pour les personnes qui tardaient à rentrer des champs le vendredi soir, puisqu'à l'époque ils priaient dehors de la ville et les gens qui tardaient à finir leur travail dans les champs étaient attendus justement par cette Chazara là, et comme ça tout le monde pouvait finir de bien ranger son endroit de travail, etc. Et tout le monde se rassemblait pour rentrer ensemble vers la ville afin de ne laisser personne rentrer seul pour éviter tout danger. Mais il faut savoir qu'il y a des conditions pour pouvoir réciter cette bénédiction. L'une d'entre elles est d'être dans un endroit où l'on prie de manière fixe, c'est-à-dire où on a l'habitude de prier. C'est pourquoi les décisionnaires nous enseignent que si on organise un minyan pour un Shabbat Ratan, par exemple dans un appartement ou pour un endeuillé, on ne récitera pas cette bénédiction-là de Bracha Me'en Sheva, la bracha qu'on fait juste après le Shmona Esrei. Dans ces cas-là, après avoir fait Shmona Esrei, on dit Yom HaShishi, Vayechulu, et on fera Kaddish sans répéter sans faire la répétition de la Amida. Il en est de même a priori dans notre cas. Et on ne pourra pas réciter cette bénédiction puisqu'il ne s'agit pas d'un minyan fixe. Toutefois, la question qui se pose maintenant est que ça fait beaucoup de temps que cela dure. Et une certaine habitude commence à s'installer. En réalité, certains de nos décisionnaires ont voulu apprendre de ce que le Mishnah Broura nous enseigne au nom du Taz, que dans certains cas, même si ce n'est pas un endroit qui est totalement fixe, on peut prononcer la bénédiction. Je m'explique. Le Taz nous enseigne qu'à l'époque, il y avait une sorte de foire où chacun pouvait vendre ce qu'il avait à vendre. Et beaucoup de Juifs se retrouvaient chaque année à cette occasion. C'était pendant une courte période de l'année. Et les Juifs se retrouvaient, beaucoup de Juifs se retrouvaient à cette occasion. Et ils avaient donc l'habitude d'organiser un minyan dans un endroit bien précis, à la foire. Et notamment le Shabbat, le vendredi soir. Et le Taz tranche que pour cette réunion-là, pour ce petit minyan, on pouvait faire donc cette bénédiction de Me'en Sheva, la Chazara de la Hamida de vendredi soir, si on veut. Et le Mishnah Broura ajoute que beaucoup d'avis suivent celui du Taz, notamment s'il y a un Sefer Torah dans cet endroit. Donc, à première vue, vu comme vous l'avez précisé dans la question, vous avez même réussi à vous procurer un Sefer Torah, cela fait un petit moment que ça dure. À première vue, vous pouvez faire cette bénédiction. Mais il faut savoir que ce n'est pas si évident que cela. Il y a lieu de différencier entre les cas. Le Bet David, un des grands décisionnaires, pense que l'exemple, par exemple, du coronavirus, celui dans lequel on vit, où on fait des minyanim un peu partout, puisque les choules dans certains endroits sont encore fermés, ou pour certaines personnes qui évitent d'aller dans les synagogues, le Bet David pense que ça ne ressemble pas au cas de la foire. En effet, dans le cas de la foire, les gens faisaient un minyan parce que c'est là-bas qu'il se trouvait. Et c'était, entre guillemets, la synagogue de la foire. Or, dans notre cas à nous, on essaye plutôt de fuir le Beit HaKnesset. On essaye de fuir la synagogue pour ne pas avoir de problème de contamination. Mais il est évident que dès lors qu'on va entendre que la propagation du virus s'est un petit peu calmée ou bien que ça s'est un petit peu amoindri, eh ben on va vouloir retourner dans ce Beit HaKnesset, on va vouloir retourner dans la synagogue, dans laquelle nous avons l'habitude de nous retrouver et dans laquelle nous avons l'habitude donc de prier. Et puisque c'est ainsi, on ne pourra pas considérer l'endroit où nous nous trouvons comme un Beit HaKnesset en tant que tel, comme une synagogue en tant que tel. On ne pourra considérer comme synagogue qu'un endroit où on a l'habitude d'aller prier et pas un endroit où qui remplace, entre guillemets, l'endroit où nous prions, qui remplace la synagogue. Donc d'après le Beit David, on comprend bien que l'exemple du Taz ne correspond pas à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, d'après le Beit David, on ne pourra pas dire la bénédiction de Me'en Sheva le vendredi soir. Après avoir dit Yom HaShishi, on ne pourra pas faire la répétition de la Hamida. D'autres disent que pendant la foire, l'endroit où ils priaient était réservé exclusivement à la prière. C'était un endroit qui était loué particulièrement pour pouvoir y faire la prière. C'était une réelle synagogue. Et donc, il avait le statut de synagogue fixe, même s'il s'agissait de faire la prière là-bas, que pour une durée déterminée, la durée de la foire. A contrario, lorsque l'on organise la prière dans une maison, puisque l'on pratique toutes sortes d'occupations dans la maison, surtout si ça se fait au salon, qu'on n'a pas une pièce qui est réservée pour ça, eh ben, on a l'habitude de faire toutes sortes d'occupations dans la maison. Par exemple, au salon, on a l'habitude de manger, on a l'habitude de se retrouver, de boire un café. Lorsque l'on organise la prière dans une maison, puisque l'on pratique toutes sortes d'occupations dans cette maison, on ne pourra pas lui donner le statut de synagogue fixe, on ne pourra pas réciter cette bénédiction. Toutefois, il faut noter quand même que d'après le Ben Ishraï, c'est en réalité l'avis de beaucoup de Mekoubalim, d'après la Kabbalah, on peut apprendre ça, on voit que beaucoup le pensent ainsi. On dit cette bénédiction tout le temps. La grande preuve à cela, c'est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, on sait tous que le soir du Seder, si jamais ça tombe Shabbat, il y a une marloquette, il y a discussion entre les sages, est-ce qu'on doit réciter cette bénédiction ou pas. D'après les décisionnaires de Halakha, on ne dit pas cette bénédiction puisque le soir de Pessah s'appelle Lel Shimurim. Il n'y avait donc pas lieu de craindre que les gens qui allaient tarder dans les champs soient embêtés par qui que ce soit, puisque on bénéficie d'une protection divine, puis ça s'appelle Lel Shimurim, c'est la nuit où Hachem nous garde, et donc il n'y avait pas lieu de craindre aucune attaque, et donc on ne récitait pas cette bénédiction. Mais, d'après les Mekoubalib, le Ben Ishraï entre autres, le Ari HaKadosh, on doit réciter cette bénédiction, même si Pessah tombe un vendredi soir. Et de là, beaucoup de personnes ont appris que d'après les Mekoubalim, on fait abstraction un petit peu des Tenaïm qui sont écrits dans la Halakha, à part le fait d'avoir Minyan, on fait un peu abstraction des Tenaïm qui sont écrits dans la Halakha par rapport au fait de dire cette Chazarat Hashatz. Et donc, d'après les Mekoubalim, même dans le cas où il ne s'agit pas d'un Minyan fixe, si on décide de dire cette bénédiction, on assure qu'il s'appuie. Donc, pour nous, en tout cas, il est évident qu'on évitera de dire cette bénédiction puisque nous ne sommes pas des Mekoubalim. On respecte la halakha et surtout qu'il s'agit d'une notion de bracha où on évoque le nom d'Akadosh Baruch Hu, on évoque le nom divin. Et il faut donc éviter de rentrer dans quelques marloquettes pour évoquer ce nom. Toutefois, si une personne décide de dire cette bénédiction, il ne faudra pas le réprimander pour ça et on pourra même répondre « Amen » à sa question. Donc, si vous me demandez est-ce qu'on doit réciter cette bénédiction, réciter la Chazara le vendredi soir, on ne récitera pas la Chazara le vendredi soir, même s'il s'agit d'un endroit où on fait la prière tous les vendredis soirs depuis le début du virus, et même s'il s'agit d'un endroit où il y a un Sefer Torah. Si toutefois quelqu'un venait à le dire par erreur, ou bien quelqu'un qui décide de faire comme le Mekoubalim et décide de le dire, on pourra répondre Amen à sa bénédiction, puisqu'il ne s'agit pas, d'après les Mekoubalim, d'une bénédiction en vain. Nous passons tout de suite à une seconde question qui touche également, qui a à voir également avec le virus. Bonjour Rav, je voulais savoir, est-ce que je peux rendre visite à quelqu'un qui est malade du coronavirus ou cela est interdit à cause du risque d'être contaminé? Alors il faut savoir que la mitzvah de rendre visite à un malade nous est enseignée déjà dans le tour. Cette mitzvah s'apprend de la conduite d'Akadosh Baruch Hu lui-même qui est venu visiter Abraham Avinu après qu'il se soit circoncis. En effet, il avait de grandes douleurs, et on se connaît toute l'histoire, que Kadosh Baruch Hu est venu le voir, etc. Et de là, on apprend que, Achnasat Orim, puisque Abraham Avinu s'est levé pour aller chercher ses invités, c'est même plus grand que Kabbalat Neshkena, que de recevoir Hashem en lui-même. Bon, une autre fois, Bezrat Hashem, on s'attardera là-dessus. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on apprend, c'est que Kadosh Baruch Hu lui-même est venu rendre visite à Abraham Avinu, et donc le tour nous enseigne qu'il y a une mitzvah de venir rendre visite aux malades. Il y a certes une discussion dans les Rishonim, dans les décisionnaires qui sont parmi les premiers décisionnaires du Talmud. Il y a une discussion à savoir est-ce que c'est une mitzvah d'ordre rabbinique ou une mitzvah de la Torah. En tout cas, la Gemara dans Maseret Nedarim nous enseigne que cette mitzvah n'a pas de limite. Il nous incombe de visiter le malade même plusieurs fois par jour. Toutefois, la Gemara met l'accent sur le fait de faire attention de en aucun cas déranger la personne qui est malade. Il y a deux raisons essentielles qui sont évoquées parmi les commentateurs au sujet de cette merveilleuse mitzvah. La première, c'est afin de s'éveiller à la situation de cette personne, afin de pouvoir prier pour lui de manière assidue, de manière de mettre tout son cœur dans ses prières, et de se rendre compte de l'état de gravité ou pas de la personne qui est malade, et donc pouvoir se renforcer dans sa prière. La deuxième raison essentielle à cette mitzvah est de prendre connaissance des besoins de la personne qui est malade. Ainsi, on pourra lui apporter ce dont il a besoin. Il y a de grandes discussions entre les décisionnaires pour déterminer quel est l'essentiel de cette mitzvah. Est-ce que l'essentiel, c'est de pouvoir se rendre compte de l'état de la personne afin de pouvoir prier pour lui? Ou bien non, est-ce que l'essentiel de la mitzvah, c'est juste de pouvoir prendre connaissance de son état et lui apporter ce dont il a besoin? En tout cas, lorsqu'il s'agit d'une maladie contagieuse, certains ont voulu apprendre d'un responsable du Rama. Le Rama, c'est le décisionnaire d'après lequel les Ashkenazim ont l'habitude de suivre. En tout cas, il a écrit dans un responsable qu'on ne doit pas craindre d'être contaminé par une maladie contagieuse. Alors, il est évident que les choses sorties de leur contexte tel que je viens de les présenter paraissent folles, mais il faut savoir qu'en réalité, le Rama, lui, il parle là-bas d'un litige financier entre deux personnes. Et sans rentrer dans les détails, si une des deux personnes plaide qu'il n'est pas responsable du litige car il ne pouvait pas sortir car il était en contact avec sa femme qui elle-même était atteinte d'une maladie qui était contagieuse, dans ces cas-là, le Rama nous dit qu'on ne doit pas on ne le croit pas, et quand même il serait sorti, qui a dit qu'il aurait contaminé les autres? C'était l'essentiel des mots du Rama. En tout cas, il y a certains décisionnaires qui ont voulu apprendre du Rama que par rapport à tout ce qui est une chose de mitzvah ou quelque chose qui correspond à un litige financier, on n'est pas obligé d'avoir grande crainte des maladies contagieuses. Alors, il y a beaucoup de réponses par rapport à ça. Est-ce qu'il parlait d'une maladie particulière? Est-ce qu'il parle de toutes les maladies? En tout cas, j'ai vu que le Sde Chemed ramène deux avis. Un avis qui dit qu'on doit rendre visite à un malade, même s'il est contagieux, comme on peut s'appuyer sur ce qu'a dit le Rama. Et il ramène un autre avis qui dit que, puisque la personne est contagieuse, on sait que la personne est contagieuse, il n'y a aucun intérêt de nous rendre nous-mêmes malades, et donc on n'a pas la mitzvah de lui rendre visite. En tout cas, il finit par dire qu'il est difficile de trancher entre les deux avis. Le Rav Ovadia Yosef, quant à lui, dans Chazan Ovadia sur les halachot de Avelut, là-bas il a tout un chapitre qui parle des halachot de Bikur Cholim, aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Il nous enseigne qu'on ne doit pas se mettre en danger pour aller faire cette mitzvah-là de Bikur Cholim, et que tel était l'avis du Radbaz. Tel est l'avis également du Rav Osner. Le Rav Osner lui rajoute qu'on peut quand même accomplir la mitzvah sans se mettre en contact directement avec la personne qui est malade, puisque le Shulchan Aruch nous enseigne que l'on peut se mettre à l'entrée de la maison et de loin voir le malade, prier pour lui et s'intéresser de son état depuis une certaine distance. C'est pourquoi, bien qu'il y ait discussion sur la possibilité d'accomplir en général cette mitzvah par téléphone, dans le cas d'une maladie contagieuse, on pourra le faire par téléphone. Et je souligne qu'il est primordial de faire attention à toutes les personnes que l'on connaît et qui sont dans cet état et qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc, il faut les appeler régulièrement et leur demander ce dont ils ont besoin afin qu'ils aient toujours de quoi manger, qu'ils aient toujours de quoi se sentir bien, etc. Des fois même, à les appeler juste pour prendre de leurs nouvelles, ça peut leur faire du bien, nafshit, c'est-à-dire... Pas qu'au niveau physique, même au niveau mental, de se retrouver tout seul pendant une très longue période, c'est difficile. Et donc, c'est pourquoi j'encourage tout le monde à accomplir cette mitzvah de Bikur Cholim, mais à distance, par téléphone. C'est-à-dire que, bien qu'en général, il y a une machloquette, est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah de Bikur Cholim par téléphone et on va s'efforcer d'aller rendre visite à la personne qui est malade, dans le cas d'une maladie contagieuse, on ne rendra pas visite à une personne malade qui risque de nous contaminer, mais toutefois, on lui passera un coup de fil, on appellera au téléphone pour se prendre des nouvelles de son état et pour pouvoir lui donner tout ce dont il a besoin, et en tout cas s'intéresser à son état et pouvoir prier pour lui. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que vous aussi, vous pouvez nous adresser vos questions par email radio@torah-box.com, je répète, radio@torah-box.com. Et pour ma part, je vous propose que l'on se retrouve de suite après une pause musique. רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך, לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן אני קטן, והתמונה גדולה, וכל מה שקורה זה סבבה, לא מפחד משום דבר, כי אני בידיים של אבא, של אבא שלי. הכל משמיים, עצום את העיניים, הכל משמיים, עצום את
יודעים, אני רוצה היום, אבל הכל משתנה פתאום, וזה בסדר, אני לא אשם, כי זה רצון השם. אני הולך, לא רואה את הסוף, מאמין שיהיה רק טוב. אני קטן, כן, אני קטן, והתמונה גדולה. מה שקורה זה סבבה, לא מפחד משום דבר, כי אני בידיים של הבא. And let things play out in a godly way. My little human eyes just don't get the picture here. And I got no reason to fear. I got no reason to fear.
Bonjour à tous et à toutes, pour ceux qui viennent nous rejoindre, vous écoutez quand le RAV vous répond. Nous nous retrouverons, si Dieu veut, chaque semaine afin de répondre à vos questions de Halakha. Vous aussi, vous pouvez nous adresser vos questions par email à l'adresse radio@torah-box.com, radio@torah-box.com. Et si elles sont sélectionnées, elles pourront, Bezrat Hashem, passer à l'antenne. On reprend tout de suite avec une question qui nous arrive de Paris. Bonjour Rav, je déménage et je dois acheter de nouveaux électroménagers. J'ai entendu dire qu'il fallait un frigidaire particulier pour Shabbat. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus ? Alors, il faut savoir qu'avec l'avancée technologique, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ce qu'on avait l'habitude. J'entends déjà certains, j'imagine déjà certains qui en entendant la question dire « C'est quoi ces trucs-là ? Nous, ça fait des années et des années, on a toujours eu des frigidaires, on n'a jamais eu de problème, on enlevait l'ampoule et ça suffisait. Aujourd'hui, les rabbanim commencent à nous inventer des choses, etc. » Il faut savoir que, en effet, avant l'achat d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, il faut être assuré que lors de son utilisation pendant Shabbat et pendant les fêtes, pendant Yom Tov, on ne transgressera aucune interdiction. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont été générés suite à l'avancée technologique. Ces dernières années, pour faire des économies d'énergie, a été mis en place, à part le problème de la lumière, a été mis en place un processus qui fait que lorsqu'on ouvre la porte, le ventilateur cesse de fonctionner. Et lorsque je vais refermer la porte, le ventilateur va tout de suite se réactiver, va refonctionner. Dans ces cas-là, mon action a éteint et allumé le ventilateur. Alors bien qu'il y a de quoi juger, est-ce que c'est un issur de Rabbanan, est-ce que c'est un issur de Oraita, est-ce que ça s'appelle un Maasé, est-ce que c'est psychréché, c'est-à-dire est-ce que c'est un interdit d'ordre rabbinique ou un d'ordre de la Torah, est-ce que c'est une action directe à moi ou c'est pas une action qui est directe à moi, c'est-à-dire tout plein de principes d'après la halakha de Shabbat sur lesquels on pourrait juger a posteriori de savoir est-ce qu'on peut autoriser une telle action ou pas le jour du Shabbat. Il faut savoir tout d'abord que on va éviter tous les problèmes et de rentrer dans toutes sortes de permissions qui sont difficiles et délicates. Donc je vais ramener une liste très succincte des problèmes qui sont fréquents dans les frigidaires. Donc le premier, comme j'ai ramené, le ventilateur qui cesse de fonctionner dès le moment où la porte est ouverte. Il y a aussi ce qui s'appelle les congélateurs no frost. C'est un système en vérité qui déclenche une résistance semblable à celle qui se trouve dans les fours ou dans les bouilloires électriques. Et en fait, elle va éviter la formation de glace lorsque la porte est ouverte. En réalité, dès qu'on ouvre la porte, le congélateur commence à congeler encore plus fort et donc toutes les petites particules d'eau qui ont fondu suite à l'entrée de la chaleur vont se transformer en glace. Pour éviter ce genre de problème, ils ont inventé ce qui s'appelle les congélateurs no frost. Et il faut savoir que ce type de congélateur, pour tout celui qui utilise ce type de congélateur le jour du Shabbat, qui va l'ouvrir et le fermer, on transgresse un interdit de la Torah qui est semblable à celui d'allumer le feu. C'est comme si on allumait un four, c'est comme si on allumait une bouilloire électrique, même si on ne le voit pas et même si on ne s'en rend pas compte. Il faut savoir également qu'il y a un mini ordinateur qui se trouve dans le frigidaire et qui permet de savoir combien de temps, qui permet de comptabiliser le nombre de temps où le frigidaire était ouvert, ou bien il compte également le nombre d'ouvertures. Et il faut savoir que tous ces processus-là de notation informatique, elles sont faites pour pouvoir allonger la durée de vie du frigidaire ou du congélateur. On peut en aucun cas dire, c'est quelque chose dont je n'ai pas d'intérêt, et donc en vérité, puisque je ne vois pas l'action se faire, c'est quelque chose qui se fait sans que moi je le vois vraiment, je n'ai pas l'intention de faire ça, je n'en profite pas. Dans ces cas-là, on pourrait se permettre, d'après certains principes de Shabbat, d'autoriser. Il faut savoir que puisque ça va, oui, m'apporter un bénéfice, le fait que mon frigidaire va être plus performant et va pouvoir durer plus longtemps, on ne pourra pas s'appuyer sur toutes sortes d'autorisation que certains rabbinim permettent par rapport à ce problème-là. Et puisqu'il ne s'agit pas de psychrécher d'Eloni Khalé, il s'agit de quelque chose qui m'apporte un bénéfice, quelque chose dont je bénéficie pour la durée de vie de mon frigidaire ou de mon congélateur. Et c'est pourquoi on ne pourra pas utiliser même ce système-là de comptabilité. Des puces électroniques enregistrent différentes données même lorsque le moteur est en marche. D'accord ? C'est pas tout à fait la même chose. C'est, à part le nombre d'ouvertures de portes, ça va être le changement de température, combien de temps la porte elle a été ouverte. Alors, en fonction de l'avancée du frigidaire, on va avoir plus ou moins de problèmes. Il faut savoir également qu'il y a d'autres problèmes. Par exemple, dès l'ouverture de la porte du frigidaire, il y a un système d'alarme qui est mis en marche pour prévenir au cas où la porte n'a pas été fermée, au cas d'utilisation anormale. D'accord ? Ou si un enfant il a ouvert, il a mal refermé pour pas que le frigidaire s'abîme. Au bout d'un certain temps, il va se mettre à sonner. Si jamais on a un frigidaire comme ça, on peut pas l'ouvrir Shabbat puisque on a mis déjà en route le processus qui va faire que le frigidaire va sonner. Alors, ça dépend encore des frigidaires. Il y a des frigidaires où ce processus fonctionne par rapport au degré qu'il va faire dans le frigidaire. Et donc, c'est sur une sorte de thermostat. Dans ces cas-là, on peut se montrer moins pointilleux. Mais s'il s'agit d'une durée de temps, d'une comptabilité de temps où la porte était ouverte, ben, on ne pourra pas se permettre d'utiliser ce style de frigidaire le jour de Shabbat. Dans certains appareils, l'air froid de la partie réfrigérante, d'accord, donc du congélateur, elle parvient, je veux dire, du frigidaire. L'air froid de la partie frigidaire provient de la partie qui est supérieure qui congèle. D'accord ? Entre ces deux parties, il y a un système de volet mobile qui se déplace électriquement suite aux informations fournies par les parties électroniques de l'appareil. Ça également, c'est encore une action qui est interdite. Certains appareils sont dotés d'un moteur à système inverter, ok, c'est très connu dans les machines pour air conditionné, d'accord, dans les climatiseurs inverter, et ce système est très problématique pour le jour de Shabbat et Yom Tov. En effet, parce que l'ouverture de la porte influe énormément sur le fonctionnement du moteur, l'intensité de l'énergie utilisée, parfois le changement s'effectue au moment même de l'ouverture. Parfois, cela est différé par le temps, mais en tout cas, il y a là de sérieux problèmes qui peuvent se retrouver dans les frigidaires et dans les congélateurs. C'est pourquoi, avant d'acheter n'importe quel frigidaire, il faut prendre conseil auprès d'un rav qui est compétent en la matière. Il faut savoir que pas tous les rabbanim ne connaissent les points de la technologie, moi-même, je ne pourrais pas répondre. Si vous me dites, est-ce que je peux acheter ce frigidaire-là ou ce frigidaire-là, je ne sais pas. Je sais globalement les problèmes qu'il peut y avoir dans un frigidaire. En Israël, j'ai l'habitude de me renseigner au Machon Technologie la Halakha chez le Rav Alperine. Pour la France, j'ai entendu dire qu'on pouvait se renseigner au secrétariat de Rav Rotenberg ou bien chez Rav Benita sur Paris, Rav Michael Benita. En tout cas, chacun fera référence à un Rav qui est compétent en la matière afin qu'il vous aide à choisir le bon modèle de frigidaire pour éviter tout problème de Shabbat. Nous passons sans transition à la prochaine question. Bonsoir Rav, peut-on déplacer les taquets de la minuterie pour avancer ou reculer l'heure de l'extinction ou d'allumage pendant le Shabbat? Par exemple, j'ai l'habitude de mettre l'horloge du Mazgan le vendredi soir, le Mazgan donc l'air conditionné, le vendredi soir de 18h à 2h du matin. Le Shabbat après-midi, je sors et je ne reviendrai que pour la fin de Shabbat. Pourrais-je, pendant qu'il est éteint, bouger les taquets pour qu'ils ne se rallument pas durant mon absence? Merci de votre réponse. Alors, il faut savoir tout d'abord qu'il y a à ce sujet de nombreuses discussions. Il y a beaucoup de problèmes, enfin deux gros problèmes qui peuvent être qui peuvent être mis en évidence par rapport au fait de bouger les taquets de la minuterie. En tout cas, il faut savoir que le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Hazon Ovadia, dans le tome 3, permet de modifier le réglage d'une minuterie de Shabbat. Mais attention, cela n'est permis seulement si on prolonge la situation existante. Par exemple, si la lumière est allumée et que je change l'heure d'extinction, c'est-à-dire que je vais décaler les plots, les taquets, afin qu'elles restent allumées plus longtemps, alors dans ces cas-là, c'est autorisé. Ou si, inversement, si la lumière est éteinte et que je veux qu'elle ne se rallume pas, pour éviter qu'elle se rallume, je vais juste décaler les plots afin qu'elle reste dans la situation dans laquelle elle est. Dans ces cas-là, on a le droit. D'accord ? D'après Rav Ovadia Yosef. Néanmoins, certains décisionnaires interdisent même cette action-là, de peur que notre action soit trop proche du temps du changement. Et en agissant ainsi, nous risquons d'engendrer immédiatement sur l'état de la lumière, ce qui, vous l'aurez compris, est interdit. C'est-à-dire, il est évident que je ne peux pas bouger le taquet et faire que ça va s'allumer ou s'éteindre tout de suite. Dans ces cas-là, je change le statut d'utilisation. C'est pourquoi on a le droit de le faire seulement si je vois qu'il me reste encore qu'un quart d'heure. Je pense que les minuteries, elles sont en général faites qu'il y a un taquet pour tous les quarts d'heure. Il faut que j'ai au moins un taquet ou deux taquets de marge pour pouvoir changer les taquets qui viennent après. Mais en aucun cas interagir si jamais on est très proche de l'heure à laquelle il doit y avoir une modification, puisque dans ce cas-là, on risque de changer de statut. Pourquoi c'est autorisé d'après le Rav Ovadia Yosef? Alors en réalité, le fait de changer de statut, par exemple, si la lumière elle est allumée, je vais faire qu'elle va s'éteindre plutôt que ce qui était prévu. Je vais faire ce qui s'appelle gramma. D'accord ? Donc j'ai une action. C'est une action qui n'a pas une incidence directe. Mais finalement, c'est mon action. Lorsque je permets juste de continuer le matzav, c'est-à-dire que je vais juste empêcher la minuterie de faire une action. Si la lumière est éteinte et je vais faire qu'elle va rester éteinte plus longtemps, je vais juste empêcher la minuterie de faire son action, je vais empêcher la minuterie d'agir de manière à ce que la lumière s'allume. Dans ces cas-là, je n'ai rien fait. J'ai juste empêché la minuterie d'agir. Dans ces cas-là, c'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef, lui, pense que c'est autorisé. Certains se montrent plus stricts, même sur ce point-là, puisque indirectement, j'aurais oui fait quelque chose qui va changer, qui va faire que la lumière ne s'allume pas alors qu'elle aurait dû s'éteindre. De plus, il y a un autre problème, et c'est celui de Mouktseh. C'est-à-dire, c'est entre autres l'interdiction de toucher ou de déplacer un ustensile dont l'usage est interdit le jour du Shabbat. D'accord ? On sait tous qu'on n'a pas le droit d'utiliser une minuterie normalement le jour du Shabbat. Je ne peux pas brancher la minuterie Shabbat, décider de faire que ça va s'allumer pendant une heure, dans une heure, dans deux heures, etc. J'ai le droit de faire ça avant Shabbat pour que ça agisse pendant Shabbat. Mais je n'ai pas le droit de faire ça le jour du Shabbat lui-même. Cependant, pour parer au problème de Moukhté. Alors, il faudra poser les conditions avant Shabbat, qui nous sera permis de manipuler la minuterie pendant Shabbat. D'après Rav Ovadia Yosef, puisque cela est autorisé en tant que tel, alors on n'a pas besoin de poser la condition. À partir du moment où je sais que je suis l'avis du Rav Ovadia Yosef par rapport à ça, je n'ai pas besoin de dire « je changerai si j'ai envie l'heure pendant le Shabbat, je changerai l'heure pendant le Shabbat ». Mais si quelqu'un se montre pointilleux en général, et Betor Khumra, c'est pas qu'il pense que c'est comme ça la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Il a décidé d'être mahmir, mais il se dit au cas où, une fois j'ai besoin, je pourrais me permettre de le faire. Dans ces cas-là, il est préférable avant Shabbat de se dire si jamais une fois j'ai besoin, je pourrais changer. Et il suffit de poser cette condition une fois pour toute l'année. On n'est pas obligé chaque année. On n'est pas obligé chaque Shabbat de répéter cette condition, il suffit de le dire une fois pour l'année, et une fois qu'on a dit cette condition, donc on aura aussi paré le problème de Moukhté. Donc, est-ce qu'on a le droit de changer les plots, de les taquets de la minuterie le jour du Shabbat? On a le droit de changer les taquets de la minuterie le jour du Shabbat si on décide juste de continuer l'état dans lequel on est. C'est-à-dire, si la lumière est allumée et qu'elle doit s'éteindre dans une demi-heure, et j'ai envie qu'elle ne s'éteigne que dans une heure, j'ai le droit de bouger et taquer afin de faire qu'elle ne s'éteigne que dans une heure. Si la lumière est éteinte et elle doit s'allumer dans une heure et je ne veux pas qu'elle s'allume dans une heure, j'ai le droit de bouger les taquets afin qu'elle ne s'allume pas dans une heure. Il faut savoir néanmoins que certains se montrent pointilleux même même si on décide de continuer l'état étant, et ils se montrent pointilleux, et nous en tout cas on évitera de le faire si jamais on est trop proche de l'heure à laquelle il doit y avoir le changement. Par rapport au problème de Moukhté, alors si jamais on fait partie de ceux qui pensent que cela est totalement autorisé, eh ben c'est autorisé. Si on fait partie de ceux qui pensent que c'est assour, eh ben c'est assour, c'est interdit. Si on fait partie de ceux qui se montrent pointilleux, mais tout en sachant qu'il y a une certaine autorisation, on posera la condition avant Shabbat, et il suffit de le faire une fois pour toute l'année, que si jamais il y a besoin, je pourrai toucher les taquets de la minuterie afin de continuer le statut de mon éclairage, etc. Donc, je vous propose que nous nous retrouvons juste après une petite page de musique. En tout cas, vous pouvez également nous poser vos questions par email radio@torah-box.com, radio@torah-box.com. Et on se retrouve tout de suite après une petite page musique.
Quand le Rav vous répond, c'est tout de suite sur Torah Box Radio.
Une question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cache-route, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Quand le Rav vous répond, le Rav Mikaël Abessera répond à vos questions de Halakha.
Et nous nous retrouvons pour cette troisième et dernière partie de notre émission « Quand le Rav vous répond ». Nous vous rappelons que vous aussi, vous pouvez nous adresser vos questions par email radio@torah-box.com. Si vous désirez nous adresser vos questions, vous pouvez le faire par email radio@torah-box.com. Et on passe tout de suite à la prochaine question qui nous a été adressée. Shalom Rav, existe-t-il l'obligation de porter des chaussures spéciales pour Shabbat? Alors, on sait tous qu'il y a une mitzvah d'avoir des vêtements qui sont particuliers pour le jour du Shabbat. Nos sages ont dit dans Maseret Shabbat, dans le Talmud, page Kufyud Gimel Amud Alef, page 113a, que tes vêtements de Shabbat ne devront pas être les mêmes que tes vêtements de la semaine. Et telle est la halakha. La halakha a répondu qu'on doit avoir des habits particuliers pour le jour du Shabbat. Toutefois, il faut savoir que les chaussures ne sont pas considérées comme un vêtement par rapport à cette halakha-là, qu'on doit avoir des vêtements particuliers pour le jour du Shabbat. D'accord ? Mais il faut savoir qu'il y a une coutume, plus qu'une coutume, c'est pas une obligation, mais c'est une bonne action à faire, c'est de faire briller, de cirer ses chaussures, l'irvot Shabbat, c'est-à-dire si jamais quelqu'un a décidé de mettre les mêmes chaussures pour la semaine et pour Shabbat, il est bon que le jour du Shabbat, ses chaussures soient plus brillantes. D'ailleurs, Rav Ovadia Yosef nous enseigne que même un endeuillé aurait le droit d'agir ainsi, puisque l'on ne montre pas de signe de deuil le jour du Shabbat. Il peut cirer ses chaussures pour le jour du Shabbat. Comme ça, le Rav Ovadia nous enseigne dans Chazon Ovadia, Avelut Chelek Bet, au deuxième Chelek. Le Kafar Haïm, et ainsi est l'avis du Gaon de Vilna, et beaucoup de sages avaient l'habitude de se montrer pointilleux et de mettre tous les habits spécialement pour Shabbat. On sait également que Rav Chaim Kanievski, par exemple, change même de kippa pour Shabbat. Il change de chaussures, il change de kippa, et il dit que c'est une marque de piété d'avoir des chaussures et d'avoir chaque vêtement qui est particulier pour Shabbat. Et les gens pieux éduquent leurs enfants en ce sens dès leur plus jeune âge. En réalité, on sait tous que Shabbat, c'est le jour qui est Mekor Abracha, c'est le jour qui est la source de toutes les bénédictions. Et plus un homme, il va être Mechabed le Shabbat, il va donner Kavod au Shabbat, il va lui montrer de l'importance, il va donner de l'importance au Shabbat, plus c'est propice de recevoir la bénédiction du Shabbat. C'est le Shabbat, c'est le jour où on déclare que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, que Kadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est un peu la manière, c'est un peu notre manière de déclarer que Kadosh Baruch Hu est présent sur le monde. Pour être Mechabed le Shabbat, pour donner justement de l'importance au Shabbat, puisque cette croyance-là, cette émouna-là, que Kadosh Baruch Hu dirige le monde, est la base de tout être qui croit en Dieu et qui croit en Kadosh Baruch Hu, alors on a l'habitude de donner de l'importance au jour du Shabbat. Et c'est pourquoi on va se montrer pointilleux de changer tous nos vêtements pour le jour du Shabbat. Tel est l'avis du Kafar Haïm, mais c'est en général l'avis de ceux qui vont d'après les Mekoubalim. En tout cas, dans le Midrash Plia, rapporté dans le livre Razin de Horaïta, au nom du Ohev Israël de Apta, il est écrit « Si le peuple d'Israël connaissait le mérite qui leur revient, au moment où ils rendent propres leurs chaussures la veille de Shabbat, comme il est écrit dans Shir HaShirim, « Mayafu pe'amayich bane'alim »« Que tes pas sont ravissants dans tes belles chaussures. » Lorsqu'un juif arrive devant le trône céleste à la fin de sa vie terrestre et voit le salaire incroyable qui lui revient pour une mitzvah facile de dépoussiérer ses chaussures, il comprend alors ce qui est marqué dans la Mishnah dans Avot, sois attentif à un commandement facile autant qu'à un commandement difficile, car tu ne connais pas la récompense des commandements. Et vezaïr be'alachakala ke bachamura. C'est pourquoi il faut faire attention d'être à un commandement facile autant qu'à un commandement difficile. Et on sait tous que les chassidim, les balei chassidou disaient, et vezaïr be'mitzvah kala ke bachamura. Zaïr, c'est aussi de Milachon Zoher, c'est-à-dire quelque chose de brillant. Il faut être brillant dans nos petites actions comme dans nos grandes actions. Donc, si jamais on veut s'attacher à la loi stricte, est-ce qu'on est obligé de porter des chaussures neuves, des chaussures particulières pour le jour du Shabbat ? Non, on n'est pas obligé de porter des chaussures particulières pour Shabbat. Mais, en tout cas, il est évident qu'il faudra faire attention que les chaussures qu'on porte le jour du Shabbat soient propres, soient brillantes, soient jolies. Et même si c'est les mêmes que celles qu'on met la semaine, il faut leur accorder une attention toute particulière afin de leur donner, entre guillemets, une particularité pour Shabbat. Je finirai juste que, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, il est évident qu'il est facile de montrer cette marque d'importance, cette marque de reconnaissance au jour du Shabbat en achetant ou en mettant des chaussures particulières pour le jour du Shabbat. En tout cas, quelqu'un qui n'en a pas la possibilité, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui a des chaussures spéciales, pourra les faire briller et ainsi montrer une certaine marque de kavod pour le jour du Shabbat. Sans transition, on passe à la prochaine question. Shalom Rav, le Chafetz Chaim nous enseigne que celui qui dit du Lashon Hara est considéré comme une personne qui transgresse les trois péchés capitaux, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Pourquoi est-ce ainsi? Alors, il est vrai que le Chafetz Chaim nous enseigne dans le Klal Aleph, dans son premier chapitre par rapport aux lois du Lashon Hara, que celui qui est un Baal Lashon Hara, c'est pas quelqu'un qui dit du Lashon Hara occasionnellement. Le Baal Lashon Hara, c'est celui qui a l'habitude de dire du Lashon Hara, c'est-à-dire pour qui l'interdit de dire du Lashon Hara est devenu banal. Il ne fait plus du tout attention à est-ce qu'il dit du Lashon Hara ou pas, est-ce qu'il dit des paroles interdites ou pas. Il va parler de son prochain de manière disgracieuse, il va lui causer préjudice ou pas. En tout cas, lorsqu'il s'agit de Lashon Hara et que cette personne-là n'a plus aucune marque de respect par rapport à ces halakhot-là, c'est devenu pour lui quelque chose de hefker, c'est devenu pour quelque chose de normal de dire du Lashon Hara. Le Chafetz Chaim nous enseigne que c'est comme s'il avait transgressé les trois péchés capitaux, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. C'est vrai, le Gaon de Vilna lui dit même, comme ça le Chafetz Chaim nous ramène dans le Shmirat HaLashon, c'est un autre sefer avec beaucoup de moussard, beaucoup de choses qui nous éveillent à ne plus dire du Lashon Hara. Il nous enseigne que celui qui dit qui est un Baal Lashon Hara, c'est pire que d'avoir transgressé les trois péchés capitaux. Alors, on va essayer ensemble de réfléchir à cette notion. Pour comprendre en quoi cela ressemble au meurtre, on peut tous comprendre aisément qu'avec une parole, on peut tuer quelqu'un. En effet, il suffit de dire à une femme « Ah, mais tu n'as pas connu ton mari quand il était jeune. » Il suffit de dire à un employeur « Ah, mais celui que tu viens d'employer, c'est un voleur. » Et voilà que déjà, les tensions sont palpables. On peut ainsi détruire des couples, on peut détruire des familles, on peut détruire des emplois, on peut détruire des sociétés, on peut détruire plein de choses, des relations d'amitié. On peut vraiment tuer, entre guillemets, une personne, si on ne la tue pas physiquement, on peut tuer. On sait qu'il y a écrit « Kol amalbin pene chavero barabim enochelek loaba » celui qui fait honte à une personne en public à tel point qu'elle blanchit, alors il n'aura pas de part dans le monde futur. Bien évidemment, la tchouva est possible. Chaque avera a ses conditions de tchouva, mais en tout cas, la tchouva est possible. Mais en tout cas, il y a écrit que celui qui fait pâlir son ami de honte n'a pas de chelek olamaba. Nos sages vous enseignent pourquoi le fait d'avoir fait pâlir particulièrement, parce que le fait de faire pâlir quelqu'un, c'est précisément le fait que tout le sang de son corps se met au niveau de son cœur, se retrouve au niveau de son cœur, et il est entre guillemets proche de la mort, d'une mort physique même. Et c'est pourquoi nos sages nous dit que en tout cas on comprend qu'avec une parole de la Lashon Hara, on peut être très destructeur et on peut pratiquement emmener une personne à sa faillite sociale, à sa faillite, à une faillite personnelle par rapport à son entourage. Et donc, cela peut être considéré facilement comme un meurtre. On sait que par rapport aux relations interdites, la Gemara nous dit que les relations interdites, elles ont un goût particulier. Il y a écrit dans la Gemara que c'est Maïm Genuvim Imtaku. C'est l'eau qui est volée, elle est meilleure, elle est plus sucrée, entre guillemets. Il s'agit pourtant de la même chose. Prenons l'exemple que la Gemara a donné, de l'exemple de l'eau. Si je bois de l'eau du robinet, ou si je bois de l'eau que j'ai volée du robinet de mon voisin, il s'agit de la même eau. Et pourtant, la Gemara nous enseigne que l'eau qui a été volée, elle sera meilleure à mon goût. On parle donc d'un plaisir qui est factice, puisqu'il s'agit de la même chose. C'est un peu ce que ce plaisir se décuple lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est interdit. Ainsi, le serpent a dit « Maitron, les Baal à la chaune ». Le Midrash nous enseigne que tous les animaux vont voir le serpent à l'aube du monde futur. Les animaux vont aller voir le serpent et vont lui dire « Le harié, il est d'Ores, Veorel. Le harié, il tue sa proie et ensuite il la mange. » Chacun a tout un processus pour pouvoir profiter de la nourriture qu'il va manger. Le Nahash, lui, il avale sa proie en entier. C'est-à-dire qu'il peut tuer, il va tuer par exemple une biche, il va la mordre, le venin va se répandre dans le sang va coaguler, ça va créer une mauvaise circulation de sang, l'animal qui a été mordu va mourir. Une fois cet animal mort, le serpent l'avale en entier, bien qu'il soit des fois beaucoup plus grand que le serpent lui-même. Alors, les autres animaux vont lui demander quel anaa, quel plaisir as-tu de manger l'animal en entier? Et là, il répond « Ouma itron les baal à la chaune. » Quel est le plaisir que le baal à la chaune a? Quel est le plaisir que celui qui dit du lachon hara, qui va dire des mauvaises paroles par rapport à l'autre, a? En réalité, dire des mauvaises paroles sur quelqu'un d'autre n'est jamais très producteur, ne ramène jamais un réel bénéfice, puisque il s'agit en général de descendre l'autre personne, même si c'est pour se relever à nous-mêmes, ça va pas faire de nous quelqu'un de meilleur. Nous, ce qu'on est, on est. Et s'il s'agit de quelque chose de négatif sur l'autre personne, à part à l'avoir descendu aux yeux de celui qui écoute, aux yeux de l'auditeur, on ne se sera pas réellement monté, on n'aura pas une meilleure estime de nous-mêmes par rapport à la personne qui est mise en question. C'est juste qu'on aura fait que la personne qui est mise en question est un peu descendue aux yeux de celui qui écoute. Donc, le plaisir de cette discussion est aussi factice. Ça ne va pas faire quelqu'un de nous de meilleur. En réalité, l'homme a l'habitude de s'auto-mesurer toute la journée, de vérifier est-ce qu'il se comporte bien, est-ce qu'il réussit, est-ce qu'il ne réussit pas, etc. Le fait de devoir dire sur quelqu'un d'autre qu'il est moins bien, alors je vais moi me sentir mieux. Mais est-ce que tu es pour autant vraiment mieux? C'est ça la question. Est-ce que tu es vraiment, vraiment mieux? Alors, la réponse, elle est non. C'est pas parce que l'autre il est pas bien que toi tu es bien. Toi tu es comme si et tu aurais dû être encore mieux que ce que tu es. C'est indépendant de ce que les autres sont. Donc c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à la relation interdite, puisque on n'a pas une réelle valeur des choses. Le fait de dire du lashon hara, ce que me procure le fait de dire du lashon hara, n'est que quelque chose de factice, n'est pas quelque chose de réel. Et pourquoi ça ressemble à la avodah zara? Alors il faut savoir que la Gemara dans Maseret Avodah Zara nous enseigne que Rabbi Yehuda ben Tordia est un homme qui avait essayé tous les bienfaits de ce monde. Et il avait été chez énormément, il a été avec énormément de femmes, etc. Et une fois, alors, il est parti voir une femme au milieu du Nil, etc. Et il s'est passé quelque chose et elle lui a dit, tu sais, toi, tu ne pourras jamais faire tchouva. Et à ce moment-là, Rabbi Yehuda ben Tordia, il est sorti et il a fait tchouva. Et il est mort juste après avoir fait tchouva. Et la Gemara nous dit, mais pourtant on nous a enseigné que ne meurt après avoir fait tchouva que celui qui a fait avodah zara. Lui, c'est vrai qu'il a profité de tous les bienfaits de ce monde. Il a peut-être eu des relations interdites, mais il n'a pas fait avodah zara. Et la Gemara nous enseigne que van de avig batouva, comme il était tellement collé à cette avera-là, à tous ces plaisirs-là du monde, qu'avodah zara damia, ça lui est compté comme s'il avait fait de l'avodah zara. On peut comprendre que l'avodah zara, au sens figuré, c'est le fait d'être attaché à quelque chose d'une manière qui est démesurée. De donner trop d'importance à quelque chose par rapport à ce que c'est de l'avodah zara. Ou bien, enlever de l'importance à quelque chose, c'est de l'avodah zara. En réalité, c'est quoi l'avodah zara? Quand nos ancêtres ont fait la faute du veau d'or, c'est pas qu'ils ne croyaient plus en Dieu. Ils croyaient en Dieu, mais ils voulaient servir Dieu à travers le veau d'or. Ça, c'était de l'avodah zara. L'avodah zara, c'est de vouloir rapetissir quelque chose qui est énorme. À Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est. essayer de le rapetissir et de le rentrer dans une petite statue, c'est pas possible. Ou bien rendre une statue un dieu. On sait que le dieu, c'est quelque chose qui est immesurable et incommensurable. De venir et vouloir mettre Dieu, rendre une petite pierre Dieu, c'est donner trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas. Qu'est-ce qui nous pousse à dire du Lashon Hara ? C'est le fait, de, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, de vouloir s'élever par rapport au regard des autres. Le fait de vouloir s'élever par rapport au regard des autres. On donne de l'importance à ce qu'est l'autre et pas à ce que nous sommes nous-mêmes. La Torah attend de nous que nous nous réveillons par rapport à ce que nous sommes nous-mêmes, sans pour autant devoir être dépendant de ce que sont les autres. C'est pourquoi il est important de tout le temps, lorsqu'on s'auto-mesure, on s'auto-évalue, de s'évaluer par rapport à un barème qui est un barème réel. Voilà ce que je suis et qu'est-ce que j'aurais dû être. Pas essayer de s'évaluer par rapport à ce que sont les autres. Lorsqu'on s'évalue par rapport à ce que sont les autres, nous sommes menés à dire du Lashon Hara et donc nous risquons de transgresser l'idolâtrie, comme on vient d'expliquer, les relations interdites, comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt, et comme le meurtre, c'est facile à comprendre. En tout cas, notre émission touche à sa fin. J'étais très heureux de pouvoir répondre à vos questions. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer vos questions par email à l'adresse radio@torah-box.com. Je répète, radio@torah-box.com. Et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut, pour une nouvelle émission de Quand Laura vous répond. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et que Dieu vous protège.
אלך רחוק בשתי רגליים, ערים גבוה את הידיים, את שק חזק עד השמיים, ואעצום את העיניים עד שמילה אחת תצא באמת, באמת, עד שניגון אחד
רציתי כמו גיבור לצאת למרות הגשם להירתם עד עצם נגד כיוון הזרם רציתי את הכל קיוויתי שעבור מוכן למסור את הנפש אפילו בלי שום רגש רציתי להמשיך ולבוא חזק עד השמיים ועצום את העיניים עד שמילה אחת תצא באמת באמת עד שניגון אחד יצא באמת באמת באמת, באמת